France Inter.
Ancien distributeur du journal de l'organisation révolutionnaire anarchiste en 68, le cinéaste Olivier Assayas a fait des études de lettres, écrit pour les Cahiers du cinéma et œuvré comme scénariste, notamment pour André Téchiné sur Rendez-vous et Le lieu du crime, avant de faire ses propres films. Il est né le même jour que moi, pas la même année, ce qui signifie qu'il partage son anniversaire avec Clara Morgan et Virginia Woolf. Son premier long métrage, Désordre, mettait en scène un groupe de rock tuant accidentellement le propriétaire du magasin dans lequel il essayait de voler des instruments de musique. On suivit Paris s'éveille, Une nouvelle vie, Irma Vep, anagramme de vampire, dont il fera une série des années plus tard, fin août, début septembre, Demon Lover, Clean, Sils Maria ou encore Carlos. Sur le mercenaire terroriste d'origine vénézuélienne, Ilish Ramirez Sanchez. Olivier Assayas a aussi réalisé des documentaires, collaboré avec le chorégraphe Angelin Preljocage et joué dans un épisode du Commissaire Maigret. Dans son dernier film coécrit avec Emmanuel Carrère, Le Mage du Kremlin, adapté du roman éponyme de Giuliano da Empoli, il met en scène l'ascension, la grandeur et la retraite d'un certain Vadim Baranov, conseiller officieux d'un ancien agent du KGB qui n'est autre que Vladimir Poutine. Un passionnant thriller politique plongeant le spectateur dans les arcanes du pouvoir en Russie, de l'effondrement de l'URSS à l'époque contemporaine, avec notamment Paul Dano, Jude Law et Alicia Vikander. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Olivier Assayas.
Bonsoir.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmé ?
La dernière chose qui m'a enthousiasmé, le dernier album de Rosalía.
Ah oui ?
En fait, si je dois chercher.
Mais c'est vrai, c'est assez impressionnant. Elle parle plusieurs langues, elle s'est entraînée à tout.
Ah, je trouve ça ressemble à rien. Je trouve elle a une sorte de génie, je trouve. Enfin, j'aimais bien ce qu'elle faisait avant, mais celui-là, ça passe un cap, quoi.
Alors, en parlant de langues étrangères, vous avez commencé à parler en hongrois. Est-ce que les origines grecques et hongroises de vos parents vous ont influencé ?
Il n'y a pas vraiment de grecs, mais l'histoire de mes parents m'a influencé dans le sens où ni l'un ni l'autre étaient français, l'un ni l'autre étaient des émigrés et qui avaient vécu dans un monde qui avait disparu. Mon père a grandi dans le Milan sous le fascisme, lui-même militant antifasciste. Ma mère a eu un premier mariage en Hongrie dans l'aristocratie hongroise, monde ayant parfaitement disparu également quand j'étais enfant. Donc il y avait cette chose assez romanesque au fond chez moi, enfin à la maison, de parents dont l'histoire était sinon mythifiée, en tout cas mystérieuse, poétique et propice à l'imagination. C'est-à-dire que j'avais envie de comprendre ce que pouvait bien être le monde dans lequel avait grandi ma mère, ce que pouvait bien être le monde où a grandi mon père. Et je crois que c'est quelque chose qui produit une sorte de... Enfin, qui fait travailler l'imagination d'une manière qui rejoint le romanesque.
Je crois qu'ils étaient assez souvent absents.
Ma mère était assez absente dans le sens où elle travaillait. Enfin, mes parents étaient séparés.
Mais c'est pour savoir si ça a aussi façonné votre imaginaire, la solitude.
Disons que de grandir à la campagne. Moi, j'étais très reconnaissant à mon père de nous avoir fait grandir à la campagne.
Dans la vallée de Chevreuse.
Dans la vallée de Chevreuse, parce que ça crée un rapport avec la nature, avec les saisons. Je suis allé dans une école qui aurait aussi bien pu être une école primaire, qui aurait aussi bien pu être une école du 19e siècle. Encore une fois, j'ai grandi dans la nature et c'est quelque chose dont je suis infiniment reconnaissant à mon père. Mais oui, ma mère travaillait, elle était à Paris, je la voyais que le week-end, elle arrivait le vendredi soir, quelquefois le samedi, elle repartait le dimanche soir. Ouais.
Votre père était scénariste et réalisateur, mais il ne considérait pas le cinéma comme de l'art, contrairement à la peinture. Ça vous a frustré ?
Disons que Oui, c'est vrai qu'à la maison, l'art, c'était la peinture, ou bien mon grand-père, du côté maternel, était un peintre hongrois d'une certaine notoriété.
La littérature.
Et la littérature. Mon père était un lecteur avide, enfin, etc. Et disons que moi, j'ai pas eu de rébellion contre mon père, parce que mon père était la personne la plus gentille qui soit. Et au contraire, j'ai plutôt bénéficié de ses conseils. Quand il me disait que je devais avoir 12 ans, il me disait, tu devrais lire Kafka. Moi, je disais, oui, t'as raison, je vais lire Kafka, etc. Et donc, j'ai enquillé tout Kafka. Et ce qui est le plus bizarre, c'est que je l'ai pas oublié. Ça m'est resté gravé. Et j'ai le souvenir, encore une fois, d'avoir suivi les conseils de lecture de mon père, et qui me disait un truc, ça me revient de temps en temps. À un moment donné, il me disait, tu sais, t'as lu plein de trucs, c'est bien, mais je t'envie, parce que tu vas découvrir un jour la littérature russe que t'as jamais lue, et ça va être un choc.
Bah c'est drôle, on va parler de Russie évidemment ce soir. Mais alors pour le cinéma, c'est plutôt à la marraine de votre plus jeune frère, Mishka, qu'on connaît sur l'antenne, que vous devez vos premiers émois avec La Conquête de l'Ouest, Le Cid, Ben-Hur.
Oui, c'était une dame assez âgée, enfin qui m'apparaissait comme assez âgée. Aujourd'hui, peut-être que je ne la verrais pas de la même manière. Et qui, en effet, le jeudi, puisque c'était le jeudi, le jour de off des écoles, m'amenait voir des films. En général, c'était moi qui choisissais le film, donc c'était des films à grand spectacle qu'on allait voir à l'Empire Cinérama ou Gaumont Palace ou Dieu sait où, ou bien c'était vraiment des séries B, quoi, le fils du capitaine Blood, M'assiste en enfer, etc. Moi, je lisais, c'était dans les programmes, je voyais les trucs qui stimulaient mon imagination, et je disais, on va aller voir ça, et elle me suivait, ou elle subissait derrière. Les nanars en question.
La 20e heure. Eva Bester sur France Inter.
Olivia Sayas, on parlait à l'instant de votre père qui ne considérait pas le cinéma comme un art, contrairement à la peinture. Mais alors, ce que je n'ai pas dit, c'est que vous avez commencé par la peinture. Ça a occupé à peu près 10 ans de votre vie. Vous vouliez être Andy Warhol.
J'avais la plus grande admiration pour Andy Warhol, oui. Disons que c'est ce qui m'a fait traverser une période que j'ai pas aimée, qui était la période de ma scolarité. Le dessin que j'ai commencé, la peinture que j'ai commencé de façon très 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 précoce, hein, ce que je faisais était nul par ailleurs, etc. Mais néanmoins, j'avais sans doute besoin de me défouler, de sortir quelque chose de moi, de l'expulser. Et l'art entre l'âge de 15 ans, 16 ans et l'âge de 23-24 ans, quand j'ai commencé à faire des courts-métrages, c'est ce qui m'a sauvé la vie. C'est ce qui m'a fait traverser le lycée, la fac, la maîtrise de lettres, etc., qui étaient des choses que je faisais pour faire plaisir à mes parents, mais dont j'avais le sentiment... Il y a eu un moment donné dans ma vie où je me suis retrouvé... J'ai fait ma maîtrise et je me suis retrouvé dans des cours d'agrég.
C'était sur le roman feuilleton, votre maîtrise ?
Oui, absolument. C'était prémonitoire. Enfin, il y a des choses dedans que j'allais réutiliser plus tard dans le cinéma. Mais enfin, en tout cas, quand je me suis retrouvé dans un cours pour faire la grègue et pour devenir prof, il y a un moment, il y a quelque chose en moi qui a poussé un hurlement, qui a dit il y a un énorme malentendu. Et du jour au lendemain, j'ai arrêté. Et j'ai commencé à bricoler comme stagiaire sur des films, réalisateur de courts-métrages, scénariste de courts-métrages. Enfin, j'ai pas à pas avancé, écrit dans Métal Hurlant, écrit dans Rock et Folk, écrit dans les cahiers du cinéma. J'ai tracé mon chemin qui m'éloignait de l'univers académique qui m'avait jamais convenu.
Mais le premier journal, c'était tout de même l'insurgé de l'organisation révolutionnaire anarchiste que vous distribuiez.
Tout à fait, absolument. Enfin, je distribuais pas, je le vendais. J'avais le sentiment qu'il y avait quelque chose. Si vous voulez, ma mère, hongroise émigrée, ayant tout perdu du fait du communisme en Hongrie. Ma nounou hongroise, qui elle-même aussi avait vu les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, l'armée russe débarquant en Hongrie, allié du Reich, certes, mais enfin, disons qu'il y avait, il y avait une sorte d'hostilité vis-à-vis du communisme à la maison. À l'époque, j'étais influencé par mon époque, mais disons que je croyais à des choses auxquelles je continue à croire et qui relevaient plutôt d'un gauchisme libertaire. J'avais du mal à m'identifier à des groupes qui soient trotskistes ou maoïstes, qui pour moi quand même relevaient d'une déclinaison du totalitarisme mao-russe. Et donc d'une certaine façon, je m'identifiais, à des groupes anarchistes. Je veux dire, ce qui m'a marqué à cette époque-là, c'est la pensée libertaire. Et après, quand c'est devenu un petit peu plus articulé, je me suis passionné pour Guy Debord et pour les thèses de l'international situationniste, qui sont quelque chose qui a beaucoup compté pour moi.
Le spectacle se présente à la fois comme la société même, comme une partie de la société et comme instrument d'unification. En tant que partie de la société, il est le secteur qui concentre tout regard et toute conscience. Du fait même que ce secteur est séparé, il est le lieu du regard abusé et de la fausse conscience. Et l'unification qu'il accomplit n'est rien d'autre qu'un langage officiel de la séparation généralisée. Le spectacle n'est pas un ensemble d'images, mais un rapport social entre des personnes, médiatisé par des images.
Eh bien justement, Olivier Assayas, on entend Guy Debord qui lit La société du spectacle, puisqu'il avait adapté pour le cinéma son propre livre en 73, que vous avez lu en 75. En 2005, vous avez supervisé la réalisation du coffret DVD de ses œuvres cinématographiques complètes et vous avez participé à l'ouvrage Guy Debord, Un art de la guerre, sorti en 2013. Et donc, la question est la suivante, quelle influence a-t-il exercé sur vous? C'est drôle quand même qu'il parle autant d'images et que ce soit votre métier.
Oui, c'est en effet un paradoxe. Mais disons que j'ai pas vécu ça comme un paradoxe et je persiste à ne pas vivre ça comme un paradoxe. Pour moi, il y a un décryptage du monde qui est opéré par la théorie du spectacle dans le livre de Guy Debord, qui m'a profondément marqué. Ces idées, c'est pas juste qu'elles résonnaient en moi, elles résonnaient dans le monde dans lequel je vivais. J'avais l'impression de mieux comprendre le monde en lisant Guy Debord. J'avais l'impression qu'il éclairait le monde là où d'autres théoriciens de la politique de l'époque l'opacifiaient. Donc oui, ça, c'est quelque chose qui a compté pour moi.
Vous faites parfois des films un peu hybrides aussi, ça peut-être...
J'ai fait des films où, d'une manière ou d'une autre, je traite de la politique contemporaine ou de l'évolution, souvent inquiétante d'ailleurs, de la société et de la pensée. Et c'est vrai que la planche à laquelle je me raccroche, enfin, c'est ce qu'a écrit Debord, que je considère à la fois comme un des grands théoriciens politiques de son époque, mais qui par ailleurs est également un poète, un plasticien. C'est quelqu'un qui a une sorte d'universalité et qui est un type d'artiste, d'un genre assez extraordinaire, parce que, enfin, pour moi, parce que j'y ai trouvé une pensée, mais j'y ai trouvé une éthique, une manière de pratiquer l'art de façon à ce que cet art s'inscrive dans le monde où l'art impose de le pratiquer dans la vie courante. C'est-à-dire qu'on a des comptes à rendre à sa pensée, à ses propres idées, dans notre travail, dans ce que nous faisons, dans ce que nous ne faisons pas, etc. Et qu'au fond, toute pensée qui n'est pas prolongée par une éthique ne vaut pas grand-chose.
De quoi traitait votre premier court-métrage Copyright avec Élie Médéros ?
Ça voulait être moderne à l'époque, il y avait un côté un peu jeune gens modernes, ce qu'on appelait jeune gens modernes, c'était une sombre affaire de faux tableaux j'étais encore très maladroit, hein. Je l'ai pas revu depuis, je l'ai fait en 79, je l'ai pas revu depuis. Pour moi, ça essayait d'être un équivalent cinématographique de ce que faisaient les gens que je fréquentais ou que j'aimais à l'époque, c'est-à-dire Élie, c'est-à-dire Jacquenot, c'est-à-dire ce qu'on là, une espèce de new, j'avais l'impression d'être un cousin cinématographique de la new wave parisienne. C'est ce que racontait mon film, hélas, n'était pas d'un intérêt fulgurant, mais progressivement ça s'est amélioré, je suis devenu meilleur visuellement, j'ai commencé à savoir faire ce que j'avais envie de faire, j'ai appris à écrire, mais enfin ça a été pas à pas, ça a été je suis très autodidacte sur ma connaissance du cinéma.
Vous avez fait beaucoup d'œuvres de fiction, vous avez aussi fait des films d'inspiration autobiographique comme L'eau froide ou Hors du temps. Dans quelle mesure vous inspirez-vous de votre propre vie pour vos œuvres ?
C'est ma source d'inspiration principale. C'est pour ça que je suis toujours un tout petit peu en décalage par rapport à la cinéphilie ou aux cinéastes qui pratiquent un tout petit peu trop la cinéphilie, parce qu'au fond, je n'ai pas appris le cinéma en regardant le cinéma. J'ai regardé le monde et puis je me suis posé la question de savoir comment il y avait le moyen de l'enregistrer grâce au cinéma. Et ça continue à être comme ça aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai envie de... Quand j'aborde une scène et que je me dis tel personnage va ouvrir une porte, fermer une porte, monter un escalier, descendre un escalier, qui sont toutes sortes de choses et qui sont des choses relativement élémentaires, il y a ça dans tous les films d'une manière ou d'une autre, je ne supporte pas de me dire, enfin, je ne le pense jamais comme... Comment un tel a fait pour filmer un escalier, quelle est la logique au cinéma suivant laquelle on ferait ce plan où on monte ou on descend un escalier. J'ai l'impression d'avoir besoin, d'avoir le sentiment qu'il n'y a jamais eu d'autre escalier avant celui-là et que jamais personne n'a filmé un escalier avant moi. Parce qu'en réalité, ce que je suis en train de chercher, c'est mon sentiment à moi au moment où je suis dans cet escalier en train de le descendre. Je cherche pas à représenter mon personnage dans cette situation-là, ce qui ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le sentiment particulier qui est induit par une scène spécifique.
Vous n'avez jamais... imiter des cinéastes que vous admiriez ?
Je pense inconsciemment, sans doute. Quand j'ai fait mon second film, il y a un four abominable.
Ça ne vous a pas découragé d'ailleurs ?
Non, ça ne m'a pas découragé. J'étais
suffisamment... C'était L'enfant de l'hiver.
L'enfant de l'hiver. Je l'ai tourné. J'avais fait, contrairement à mon premier film qui était plus des histoires de garçons, hein, etc. Là, c'était un film beaucoup plus féminin. Les deux personnages principaux étaient féminins. Et j'ai commencé à les filmer avec des longues focales. Et quand j'ai fini le film, je me suis dit, mais tiens, c'est bizarre, en fait, filmer des visages en allant chercher l'expression, des choses infimes dans les mouvements d'un visage. Bon, la référence, c'est Ingmar Bergman.
Vous l'avez rencontré, d'ailleurs, Ingmar Bergman.
Je l'ai rencontré, j'ai même fait un livre d'entretien avec lui.
Vous pouvez raconter comment s'est passée cette rencontre et le souvenir que vous gardez de l'homme ? Parce que c'est quand même assez
vous savez, le paradoxe, c'est que j'ai beaucoup préparé cet entretien, ça, parce que je savais que ça devait donner lieu à un petit livre qu'il nous avait accordé trois fois. Je l'ai fait avec Stig Björkman, un critique suédois. Il nous avait accordé trois après-midi alors qu'il était en pleine mise en scène d'une pièce de l'Antiquité, je ne sais plus laquelle, en Antigone ou un truc comme ça. Donc, il y avait quand même beaucoup de ces films que je n'avais pas vus. Moi, j'étais un jeune cinéaste à l'époque, j'avais vu ce qui était accessible, mais je n'avais pas vu les 40 films d'Ingmar Bergman. Donc, j'ai fait ce que je n'avais jamais fait auparavant, c'est-à-dire que je me suis retrouvé à regarder systématiquement les films de Bergman, qui, à cette époque-là, étaient accessibles dans les salles du Quartier Latin. Ils passaient en boucle. Hein, et donc, j'ai pu découvrir ses premiers films, ses films les moins connus. J'ai pris des notes, j'ai essayé de construire une chronologie. Je me suis dit, tiens, à partir de ce moment-là, c'est plus Gunnar Bjornstrand qui joue le rôle principal, c'est plutôt Max von Sydow. À ce moment-là, c'est plus Sven Nykvist, il fait affaire avec tel autre opérateur. Enfin bon, j'essaye d'analyser d'une certaine façon son œuvre et je relis de près son admirable autobiographie, La Terna Magica, qui est sans doute un des plus beaux livres, les plus belles autobiographies d'artistes du XXe siècle.
Drôle et cruel.
Drôle et cruel, mais d'une intelligence perçante qui était la sienne. Donc, quand je rencontre, après tout ce travail de préparation et de recherche, je rencontre enfin Ingmar Bergman, très, très, très sympathique, marrant, avec un truc enfantin, touchant, et cruel à la fois, brutal, etc. En réalité, je suis plus surpris par rien, parce que je veux dire, dès qu'il commence à me parler, je dis, bah oui, c'est ce que vous dites, etc. Non, mais ça, je plaisante. Il y a quelque chose de cette dimension-là, et puis il y a le sentiment d'être face à l'un des plus grands artistes de mon époque, d'avoir la chance infinie de pouvoir lui poser des questions, lui parler, lui demander comment il a fait ceci ou comment il a fait cela. Et j'ai rien oublié. Hein. Tout est resté inscrit et je l'ai utilisé, je l'ai exploité, je l'ai mis en œuvre. Je me suis très, très longtemps considéré comme très bergmanien. Après, fatalement, je suis allé dans d'autres directions à mesure que j'ai trouvé ma propre voie, ma propre identité. Mais quand même, Bergman, ça a été un choc, ça m'a marqué. Et durablement.
Alors il y a une phrase qui paraît-il il aurait prononcée, dites-moi si je me trompe, c'est « il ne faudrait pas qu'Igmar Bergman fasse de l'Igmar Bergman », et ça vous a marqué?
Ah oui, ça m'a beaucoup marqué.
Comment l'entendez-vous?
Disons qu'à un moment donné, il ne faut pas s'imiter soi-même. C'est-à-dire, il y a ce côté, au départ, on commence, on ne sait rien, et puis au fur et à mesure, on sait des trucs. Et après, on a une sorte de boîte à malice, une boîte d'accessoires grâce auxquels on sait qu'on peut faire ceci, on peut faire cela, on peut tourner ceci, comme ci, comme ça, etc. Enfin, il y a un moment donné où la tentation est grande de s'imiter. Enfin, de s'imiter, c'est-à-dire d'utiliser des solutions qui ont fonctionné autrefois pour faire fonctionner des scènes dans le prochain film ou dans celui à venir. Et puis, au fur et à mesure, qu'est-ce qui se cristallise? C'est une sorte de style où, effectivement, si on n'y prête pas attention, Bergman se met à faire du Bergman qu'on a déjà vu, ou Olivier Assayas se met à faire du Olivier Assayas qu'on a déjà vu, et on en a marre, on voudrait voir autre chose.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Ce qui compte en Russie, c'est d'être proche du pouvoir.
Vadim Baranov était un metteur en scène visionnaire. On l'appelait le nouveau Rasputin.
Je veux être un acteur de mon temps, pas un simple observateur.
Il faut arrêter d'écrire des histoires et commencer à créer la réalité. Nous devons inventer quelque chose de nouveau. La Russie a besoin d'un nouveau type d'homme politique.
Il est jeune, sportif. C'est un espion du KGB. Vladimir Poutine.
Ce qui m'intéresse, c'est le pouvoir. Je ne peux pas être soumis à qui que ce soit.
Notre objectif, c'est le chaos. Nous allons infiltrer l'esprit des gens. Construire le mythe selon lequel les Russes ont pris le contrôle du monde moderne. Nous en sommes les maîtres.
Olivier Assayas, on entend la version française de votre film Le Match du Kremlin, adapté du roman de Giuliano da Empoli, publié en 2022. L'écrivain qui est votre voisin en Toscane, vous avez envoyé son livre avant sa parution et vous n'y voyez pas de matière à ce moment-là pour faire un film, c'était trop abstrait. Et heureusement, François Samuelson, votre agent, Emmanuel Carrère, avec lequel vous avez fait le scénario, et sa mère Hélène Carrère-Dancausse, vous ont convaincu.
On peut le dire comme ça.
Alors dites-le autrement, si
c'est
pas ça.
Non, c'est exact. C'est exact. Moi, je ne connais pas la Russie. Enfin, je pars avec un paquet de handicap. C'est-à-dire que je ne connais pas la Russie. Enfin, je connais très mal l'histoire moderne de la Russie. C'est une histoire qui se passe en Russie et je sais d'avance qu'on n'aura jamais de la vie accès à la Russie, on n'aura jamais accès à des archives russes, on n'aura jamais accès à vos accessoires, aux costumes, aux archives, enfin ce que vous voudrez russes, et qu'il faudra reconstituer des approximations un peu partout. Que idéalement ce film je l'aurais fait en russe, tourné en Russie, c'est inimaginable. Il faudra le faire en anglais. C'est toutes sortes de handicaps. Et puis c'est très bavard. C'est quasiment un monologue. Donc comment arriver à rendre ça vivant? Comment arriver à rendre ça intéressant? Comment rendre ça fort visuellement? Au fur et à mesure, je veux dire, la vérité, c'est que tout ça me semblait infaisable, ou en tout cas extrêmement difficile, et qu'à un moment donné, c'est parce que c'était difficile, parce que c'était infaisable, que je me suis dit « Ok, ben peut-être justement ça vaut la peine de me bousculer un peu et de ne pas faire quelque chose que j'ai déjà fait et me lancer dans une aventure. » D'autant plus que je l'ai fait en étant entouré d'Emmanuel Carrère, qu'on se connaît depuis toujours, on faisait du journalisme en même temps, il y a fort longtemps, et on s'est jamais vraiment perdu de vue, et donc c'était l'occasion de travailler avec un ami, et puis il y avait une sorte d'ange tutélaire qui était Giuliano da Empoli, qui aujourd'hui est un des grands théoriciens, enfin des théoriciens importants de la politique contemporaine, qui était un très bon allié, c'est-à-dire à chaque fois qu'avec Emmanuel on butait sur tel ou tel élément ou tel chapitre de notre construction, de notre adaptation du Match du Kremlin, on savait qu'on pouvait appeler Giuliano et que Giuliano allait nous répondre dans les 10 minutes et qu'il avait le temps de nous parler, qu'il avait le temps de se rendre disponible et d'expliciter tel ou tel événement ou tel moment qui nous semblait mystérieux voire totalement opaque.
Alors on suit le parcours de Vadim Baranov qui est interprété par Paul Dano, le conseiller de l'ombre de Poutine, futur tsar, puisque à l'époque il est au KGB.
Il est chef du FSB qui est le KGB.
Oui, bien sûr. Et vous avez un casting international puisqu'il y a des Américains, des Anglais, Alicia Vikander qui est suédoise. Et alors est-ce que je peux révéler où c'est tourné puisque vous avez réussi à reconstituer la Russie grâce à Kirill Serebrennikov qui a monté Limonov?
Oui, on l'a tourné en Lettonie. On l'a tourné entièrement en Lettonie et c'est en effet, d'une certaine façon, je crois, indirectement grâce à Serebrennikov parce que j'étais en train de chercher un endroit où on pourrait tourner le film. Parce que au départ, il suffit pas d'écrire un scénario, il faut encore que ce scénario soit finançable. Et quand il y a un certain nombre de décors, c'est un film d'époque, donc il faut reconstituer.
Il y a eu quelques déconvenues au niveau des financements à cause du sujet.
Je pense que les difficultés qu'on a eues à financer le film, qui par ailleurs est très cher, les films ne sont jamais assez chers, mais ils ne sont toujours pas assez chers, je ne sais pas comment dire. Il y avait énormément de décors et qu'on trouvait, mais on les trouvait fragmentés dans plusieurs pays différents. Et donc, du point de vue du coût du film, c'était impensable, inabordable. Donc, il fallait, à un moment donné, trouver un pays où on pouvait réunir la totalité des décors. Et il se trouve que Charles Gilibert, qui a produit La disparition de Joseph Mengele de Serebrennikov, a été le producteur de plusieurs de mes films. On se croise par hasard. Je lui dis ce que je suis en train de faire. Et je lui dis que le problème, je lui explique le problème qu'on a. Il me répond, mais tu sais, avec Serebrennikov, on a cherché un lieu qui puis où on pouvait reconstituer la Russie, en particulier pour faire Limonov. Et la Lettonie, ça marche très bien. Tu devrais essayer. Et je l'ai pris au pied de la lettre. Et effectivement, ça a été un peu la solution à tous nos maux.
Of Larry King Live, it's our honor to have as our special guest for the full hour here in New York at the Millennium Summit at the United Nations. We're at our studios, Vladimir Putin. Vladimir Putin is, of course, president of Russia. There's lots of things to talk about tonight. We thank him for coming and welcome to the United States. What about this job so far, if anything, has surprised you?
Не могу сказать, что меня что-то удивило особенно. Потому что до того, как я стал президентом, я определенное время выполнял обязанности председателя правительства России.
C'est une véritable archive dans laquelle Larry King interview Vladimir Poutine dans son émission le 8 septembre 2000 sur CNN. Et Poutine répond en substance qu'il a pris l'habitude d'exercer des fonctions de président alors qu'il n'était que Premier ministre à l'époque, puisque c'est comme ça qu'il a commencé. Ce que vous montrez bien dans votre film, Olivier Assayas, Le Mage du Kremlin, vous avez utilisé de vraies archives dans le film et aussi reconstitué certaines archives, comme celle avec Boris Eltsine. Qu'avez-vous compris de la Russie en faisant ce film ?
Bah aussi celle justement de Larry King, hein. On a reconstitué cette une partie de cet entretien qui est très connu. On n'a pas obtenu de CNN qu'on utilise leur logo. On n'a pas obtenu de CNN qu'on puisse utiliser la figure de la voix de Larry King, ou même l'apparence de Larry King.
J'ai été prise au piège.
Et donc, on était obligé de tout reconstituer. Quelle était l'autre question ?
La question, c'est, avez-vous compris quelque chose de la Russie faisant ce film ?
Oui.
Parce qu'elle est toujours opposée à l'Occident, et en Russie, ce qui compte, c'est le pouvoir, et en Occident, c'est l'argent.
Oui, c'est ce que dit Fassala, c'est Giuliano da Empoli qui écrit ça. Est-ce que j'ai compris des choses sur la Russie ? Je pense que la Russie est une énigme. Je pense que je serais extrêmement abusif de ma part de dire que j'ai compris quelque chose à la Russie. Mais j'ai compris que la Russie est différente de l'Occident, ça c'est certain. C'est un pays d'une autre nature, qui est traversé par des flux d'une nature très 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 différente, et qui, quand on n'en est pas familier, peuvent être inquiétants.
Alors justement, en parlant d'inquiétude, Vladimir Poutine va utiliser la peur comme instrument de manipulation des masses. Et à un moment, il dit dans votre film, « Je ne suis pas intéressé par le fait d'avoir un prix Nobel de la paix, je veux restaurer la grandeur de la Russie. » Et il plaît parce qu'il veut restaurer la verticalité du pouvoir. Et je me suis demandé, en regardant votre film, si ce n'était pas ça qui plaisait de plus en plus dans de plus en plus de pays.
L'intelligence de Giuliano da Empoli, quand il écrit le Mage du Kremlin, c'est de raconter littéralement l'accession de Vladimir Poutine au pouvoir, mais de raconter de façon plus générale quelles sont les modalités modernes du pouvoir et la manière dont ces modalités se sont transformées durant les dernières décennies, et comment les nouveaux outils de la politique, de la propagande, hein, etc., se sont mis en place à un moment spécifique qui est celui de l'accession de Vladimir Poutine au pouvoir. Donc on raconte, j'ai l'impression, hein, qu'en suivant Giuliano, on raconte à la fois l'histoire spécifique de Vladimir Poutine, mais au fond, il y a une réflexion, il y a une tentative, enfin, de mise en perspective de questions qui sont beaucoup plus générales, beaucoup plus vastes et qui concernent la politique occidentale dans son entier.
D'ailleurs, Paul Dano, quand il a visionné la première version du film, l'a résumé ainsi. Le sujet du film, c'est la complicité et comment les hasards ou les fluctuations de la vie font qu'on puisse se retrouver complice du mal. Et je trouve que justement, dans votre mise en scène, pour emprunter un titre à Nietzsche, c'est vraiment par-delà le bien et le mal. Et la question est la suivante, peut-on participer à des choses monstrueuses sans être soi-même un monstre de façon univoque ?
Ben, disons que je trouvais que Paul Dano résumait ça très bien.
Il est très trouble dans le film.
Il est trouble, il est contradictoire.
Amoral,
il est
amoral.
Mais enfin, il a une lucidité. Il est lucide sur l'idée qu'il est en train de vendre son âme au diable. Et que dans cette histoire, il y gagnera peut-être quelque chose qui a à voir avec là, une sorte de d'ivresse du pouvoir, mais en même temps, il va y perdre son âme. C'est ce qui en fait quelqu'un d'un peu différent des autres conseillers de Vladimir Poutine, parce que il a au fond que c'est pas quelqu'un qui est là pour prendre le pactole, enfin des oligarques, ce qui a été quand même le but du groupe qui entoure Vladimir Poutine depuis le départ, mais c'est quelqu'un qui se pose des questions sur la nature du pouvoir, sur la nature de la Russie, sur l'histoire de la Russie, de la façon dont lui-même s'y inscrit. Donc ça en fait un personnage qui est porteur des contradictions qui sont avant tout celles de l'humain. L'humain est contradictoire. On est constamment une chose et son contraire, et on essaye néanmoins de nous canaliser nous-mêmes et d'essayer de respecter nos propres critères moraux. Mais c'est des choses qui nous agressent, qui nous interrogent à chaque moment de notre vie.
J'aurais pu choisir de vous passer un morceau de Thurston Moore de Sonic Youth, puisqu'on le retrouve sur la BO de votre film Le Match du Kremlin ou Franco Battiato, mais le standard de ce soir, c'est Patti Smith, Because the Night. Et nous arrivons à un moment qui va nous poursuivre pendant toute la semaine. Poursuivre n'est pas le bon mot. C'est que du 21 au 25 janvier, le CNL organise dans toute la France et à l'étranger les Nuits de la Lecture. Et on s'associe à l'événement et donc on demande à nos invités de lire un texte. Et on vous a imprimé un passage du Match du Kremlin, justement, de Giuliano d'Ampoli, que vous avez adapté.
Je vais essayer de le lire bien, hein. Je suis pas...
Faites comme vous
voulez. C'est pas mon métier. C'était l'heure de la nuit où la mort entre dans le monde. Et pendant que je parcourais les longs couloirs blancs du Kremlin, j'avais la sensation de me trouver dans le seul endroit de toute la Russie qui ne fut pas immergé dans les ténèbres. Le palais du Sénat, où se trouve le bureau de Poutine, n'a pas l'importance glaçante de celui des tsars. Ici, le pouvoir ne se disperse pas en glissant sur les miroirs de salons inutiles, mais se concentre et agit. C'est pourquoi Lénine en avait fait le siège de son gouvernement, et depuis, c'est dans ces petites salles, meublées avec un goût sommaire, que le destin du plus vaste pays de la Terre se décide. En arrivant dans l'antichambre du président, j'adressais l'habituel salut muet au portrait des tsars qui ornaient les murs et à la statue du samouraï japonais que Poutine avait choisi d'ajouter aux jeunes gens en chair et en os de sa garde. Le chef du secrétariat particulier me fait signe de passer, le président m'attendait. En entrant dans son bureau, je le trouvais assis derrière sa table de travail plutôt que sur le divan qu'il choisissait habituellement pour nos conversations privées. Très mauvais signe. Le grand lustre en bronze était éteint pour une fois. Seule la petite lampe de table éclairait le bureau du tsar, créant une atmosphère de recueillement studieux. Je m'installais dans un des deux fauteuils, un commode, qui faisait face au bureau de Poutine. Le tsar lisait un document et resta silencieux quelques minutes, puis sans quitter des yeux la feuille qu'il avait devant lui. « Où en est mon indice de popularité, Vadia ?»« Autour de 60%, président. » « Bon, et tu sais qui est plus haut que moi ?»« Personne, président. Le concurrent le plus proche est autour de 12%. »« Ce n'est pas vrai, Vadia. Lève ton regard. Il y a un leader russe qui est plus populaire que moi. » Je ne comprenais pas où il voulait en venir. « Staline, le petit père, est aujourd'hui plus populaire que moi. Si nous étions face à face aux élections, il me mettrait en pièces. » Le visage du tsar avait pris la consistance minérale que j'avais appris à reconnaître. Je m'abstins de formuler le moindre commentaire. Vous, les intellectuels, vous êtes convaincus que c'est parce que les gens ont oublié. D'après vous, ils ne se souviennent pas des purges, des massacres. C'est pourquoi vous continuez à publier article sur article, livre sur livre à propos de 1937, des goulags, des victimes du stalinisme. Vous pensez que Staline est populaire malgré les massacres? Eh bien, vous vous trompez. Il est populaire à cause des massacres, parce que lui, au moins, savait comment traiter les voleurs et les traîtres.
Et ça, c'est un extrait magistralement retranscrit dans votre film Le Match du Kremlin, Olivier Assayas. Merci pour cette lecture. Il nous reste à peu près 40 secondes pour une recommandation. Est-ce que vous pourriez dire un tout petit mot sur un film muet que vous adorez, qui est L'Enfer, un film italien de 1911 adapté du texte de Dante?
Ah, c'est génial. C'est un des films les plus méconnus des origines du cinéma et sans doute le premier long métrage de l'histoire de l'histoire du cinéma. Il y a quelque chose de visionnaire enfin qui se passe là et c'est assez passionnant sur la naissance du cinéma parce que quelqu'un, à un moment donné, décide qu'il faut faire un film qui est un film italien, un grand film italien, qui serait inspiré de Dante. Et qu'est-ce qui se met en branle? C'est la question de comment on va adapter Dante. Et adapter Dante, ça veut dire convoquer un des responsables de la société dantesque italienne, donc qui va couvrir le projet de son autorité académique, un metteur en scène de la Scala de Milan pour l'aspect visuel et un technicien. Et donc c'est ce trio qui crée ce chef-d'œuvre qui est très peu trouvable. Enfin, si vous mettez, il doit exister sur YouTube. Ça mérite le détour.
Merci beaucoup, Olivier Assayas.
Merci à vous.
Je rappelle que le Match du Kremlin sort en salle demain et que cette émission a été réalisée avec brio par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas, Anaïs Boucher et Franck Olivard. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin, la technique, Jérôme Ragano. À demain.